Lundi 14 juillet, il est 18h et bientôt une minute sur Radio Campus Paris en FM et sur le web. Et 18h, ce n'est pas l'heure du défilé, mais c'est toujours l'heure de la relève. Bonsoir et bienvenue dans votre quinzomadaire radiophonique préféré. Ce soir, c'est la dernière de la saison, mais on va continuer de parler de nouveaux talents, de ceux qui commencent. On parlera de Normandie, de littérature. Mon invité est écrivain. Comme je dis à chaque fois, j'ai l'impression de sauter à l'élastique, car je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour Philippe Villain.
Oui, je vous entends très bien. Bonjour.
On va parler de votre livre « Mauvais élève » qui a apparu en début d'année aux éditions Robert Laffont. « Mauvais élève » est ce qu'on appelle un roman d'apprentissage, un récit autobiographique. Alors, juste avant de commencer, une précision, vous êtes un écrivain confirmé qui a déjà une œuvre derrière lui. Et si j'ai fait avec vous une entorse au principe de cette émission qui est normalement d'inviter des primo-romanciers, c'est parce que votre livre, d'abord, je l'ai beaucoup aimé, je le trouve passionnant. Et parce qu'il se concentre sur votre vie d'étudiant et vos années de formation. Pour commencer, je vais vous demander qu'est-ce qui vous avait amené aujourd'hui à parler de votre jeunesse. Qu'est-ce qui amène un homme, je ne connais pas votre âge, mais vous devez avoir autour de 50 ans, à se retourner sur sa jeunesse?
Et bien justement, c'est l'arrivée à 50 ans qui m'a fait donner envie de faire un bilan de ma vie, et particulièrement de cette période déterminante de ma vie, parce qu'elle a été assez instructive et elle a été celle qui m'a en 12 ans, 13 ans, qui m'a transformé culturellement, moralement et socialement. Et donc évidemment, ça a été de l'année 1987 à 2000, disons, à peu près 13 années, où je suis passé du chaos de la scolarité, où j'avais redoublé deux fois au collège, hein, c'est vraiment un très très mauvais élève pour le coup, et j'ai été relégué en BEP, et puis jusqu'à ma reconversion, jusqu'à l'université, un cursus postdoctoral jusqu'à son terme. Mais entre-temps, même, je suis devenu écrivain dans ces 13 années. Donc, il s'est passé tellement de choses et j'ai eu besoin, évidemment, de revenir sur ces années déterminantes qui m'ont construit complètement.
Je ne suis pas du tout psychanalyste ni psychologue, mais vous diriez que c'est un, comme on dit aux États-Unis, un livre sur la midlife crisis, la crise de milieu de vie. Vous êtes en pleine crise ou je ne peux rien faire pour vous, hein, c'est juste pour savoir.
Non, ce n'est pas la crise de la cinquantaine, mais c'est un peu... il n'y a pas très très longtemps, j'ai relu un livre de Stendhal qui s'appelle « Vie d'Henri Brulard », qui est le début de l'autobiographie moderne, et il dit... j'arrive à 50 ans, il est temps que j'écrive sur moi, moi qui ai écrit sur de nombreux, qui ai fait beaucoup de biographies, qui ai écrit sur de nombreux auteurs, il est temps que j'écrive sur moi. Et ben, c'était un peu ça aussi. J'ai eu besoin, non, c'est faire une sorte de tentative d'élucidation de mon parcours. Et là, ça s'est fait, vous avez parlé de roman d'apprentissage, c'est une sorte d'autobiographie intellectuelle, où c'est forgé beaucoup de choses, notamment ma conscience politique aussi et de justice, hein, qui s'est construite à ce moment-là. Donc c'est évidemment très 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 important.
Justement, puisqu'on parle autobiographie, roman d'apprentissage, vous êtes plutôt Rousseau, Montaigne, qui vous êtes, puisque vous aimez la littérature avec un grand L, et tant mieux. Ouais. Vous avez venu de citer Stendhal. Quelle forme d'autobiographie vous préférez dans les grands modèles anciens?
Alors, dans les grands modèles anciens, peut-être la première qui m'a vraiment beaucoup intéressé, parce que c'était au programme du cursus universitaire à l'Université de Rouen, c'était les Confessions de Rousseau. Pour moi, ça a été vraiment une grande découverte et la possibilité qu'on pouvait écrire sur soi et se prendre en exemple également pour ses semblables, dit Rousseau. Donc ça, c'était très important. Ensuite, c'est celle de... évidemment, de Stendhal, la vie d'Henri Brulard, les textes également de Benjamin Constant, et puis forcément La recherche du temps perdu de Proust, qui n'est pas véritablement une autobiographie à proprement parler, mais qui est quand même une sorte de pratique autofictionnelle où il dit qu'il n'invente rien, il n'a fait que recueillir et que traduire sa réalité. Donc ça, ce sont des textes qui m'ont évidemment beaucoup, beaucoup marqué, qui que je relis régulièrement, enfin pas en entier, mais que, dont je relis des passages régulièrement.
Mmh. Je réagis juste sur un point que vous venez de dire. Vous dites que vous avez découvert qu'on pouvait écrire sur soi. Est-ce que vous venez d'une famille où parler de soi, ça ne se sait pas, donc vous imaginez encore moins qu'on puisse écrire sur soi?
Oui, enfin, je viens d'une famille et d'un milieu où, de toute façon, la littérature n'était pas au programme, si j'ose dire, et qu'il n'y avait pas de livre du tout. Donc, le fait d'écrire ou pas sur soi, en fait, c'était le fait d'écrire et puis même de lire n'était pas véritablement des choses, des pratiques importantes d'ailleurs. Et donc, la question ne s'est pas posée, mais lorsque j'ai commencé à écrire, en tout cas, j'étais un très mauvais élève, mais j'étais très réflexif, très auto-réflexif, très introspectif, et je me suis tourné d'emblée vers la littérature introspective, analytique, et les textes où les personnes réfléchissaient sur leur propre vie. Évidemment, ça ne faisait qu'opérer une sorte de continuité avec ce que j'étais. Et donc, je me suis retrouvé tout de suite dans ces textes-là, finalement, moi qui n'étais pas du tout un lecteur, eh bien, je suis entré assez rapidement et j'allais dire facilement dans des textes qui étaient quand même assez ardus, alors que je n'avais aucune expérience de lecture, parce que ces textes, finalement, qui sont des textes très, qui racontent des vies personnelles, individuelles, eh bien, elles parlaient également de la mienne, finalement.
Vous cherchez.
J'ai découvert finalement qu'en écrivant sur toi, eh bien, on parlait de la vie des autres, tout simplement.
Mais vous cherchiez des mentors, des modèles pour bien vivre, entre guillemets?
Oui, j'ai eu cette période où j'ai eu besoin de me trouver des sortes de modèles, de maîtres à penser qui allaient m'aider, me diriger, m'orienter dans ma jeunesse qui était un peu perdue. J'avais besoin de ces repères-là que la vie et la scolarité ne m'avaient pas donné, ou plutôt qu'elles m'avaient donné, mais que je n'avais pas su prendre. Et je me suis tourné. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que je ne lisais pas, mais quand je me suis mis à lire, je me suis tourné et orienté directement vers les textes qui étaient passés, ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature littéraire une certaine haute littérature, sans m'en effrayer, alors que je n'avais pas forcément toujours les compétences pour comprendre tout ça. Mais ça a été peut-être l'instrument de mon succès, de faire de ce choix-là. Peut-être que si j'avais lu une autre littérature, je ne serais pas devenu écrivain, ou en tout cas, je n'aurais pas eu forgé un rapport aussi profond à la littérature, je pense.
Je reviens un peu en arrière à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous êtes l'enfant d'un couple de gens simples. Moi, je tiens au mot simple, je le trouve très beau. J'espère qu'il ne vous vexe pas, qu'il ne les offense pas. Vous n'êtes pas vraiment doué pour l'école. Et une des particularités qu'il y a dans votre texte, et j'imagine chez vous, puisqu'il est autobiographique, c'est que vous écrivez sur la souffrance du cancre. Souvent, le cancre est un héros, l'héroïse, c'est un peu quelqu'un qui est anti-système avant l'heure. Vous, vous dites que finalement, c'était quelque chose qui vous fait souffrir.
Oui, bien sûr, parce qu'on a tendance à angéliser le rapport au cancre en pensant qu'il a évidemment, enfin, on aime à penser qu'il est pétri de qualité, mais qu'il préfère paresser, ne rien faire au fond de la classe. Et on a une image complètement idéalisée de ce cancre. Or, avant tout, s'il est comme ça, en retrait, silencieux, ou peut-être même capricieux, ou même insolent parfois, moi, c'était pas mon cas, mais il y en avait qui étaient comme ça, eh bien, en fait, c'est l'expression toujours d'une souffrance, en fait, d'un mal-être. Ce retrait est toujours cette expression-là, et on préfère le positiver son image. Or, non, c'est quelqu'un qui souffre vraiment de ne pas être dans la normalité, de ne pas être aussi bon que les autres, être toujours considéré comme celui qui ne comprend pas. Donc, alors, il transforme évidemment cette incompréhension et cette forme un peu d'humiliation soit en cabotinage, soit en insolence, soit, comme moi, en retrait et puis en absence. Moi, si j'ai brillé à l'école, c'est par mes absences, en fait. J'y allais très, très peu, quoi.
Vous écrivez quand même « J'éprouvais intellectuellement la douleur d'être un cranque ». La douleur, c'est physique?
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, à tel point que je n'y allais pas, donc il n'y avait pas de présence physique ou très très peu. Évidemment, quand on ne va pas à l'école, ben, on a des mauvaises notes parce qu'on ne comprenait rien. Quoi. J'avais tellement de retard, accumulé les retards, mais je me plaisais presque à jouer le rôle du cancre à la fin, en fait. C'était assez étonnant puisque quand j'ai redoublé ma troisième, eh bien, j'étais ma seconde, troisième, mon redoublement était encore pire que le premier. Et donc, il faut quand même le faire pour mettre autant de mauvaise volonté à être le meilleur des mauvais élèves, finalement. C'était presque un sacre, presque un honneur, quelque part, parce que je jouais à entrer dans la représentation des autres, finalement. Donc, c'était au niveau masochisme, quelque chose d'assez fort, finalement.
On a beaucoup parlé autour de votre livre, et on en reparlera peut-être après, d'une histoire d'amour, puisqu'il raconte aussi une histoire d'amour avec une femme écrivain, on peut dire son nom, qui s'appelle Annie Ernaux, qui est prix Nobel de littérature, que vous rencontrez quand vous avez 24 ans. Mais c'est aussi une déclaration d'amour, je crois, au livre et à la littérature. Car si les trois premiers mots, pardon, je ne sais plus compter, de votre livre sont « lire m'ennuyer », quelques pages plus tard, vous écrivez... Je découvrais qu'il n'existe sans doute pas d'asservissement plus grand que celui d'une vie sans livre et qui, sans nous rendre forcément inconscients de nos manques et de notre malheur, mais nous en privant de repères et de cadres, en nous rendant incapables de décrypter le monde et de nommer précisément les choses, nous condamne à errer dans un monde absurde. C'est à ce moment-là la révélation que vous ont apporté les livres. Non, la révélation que vous a apporté les livres, pardon. J'ai honte après une phrase aussi belle de s'abonner, comme on dit dans mon métier.
Non, mais bien sûr, le constat est simple. En fait, ne pas lire, c'est se condamner intellectuellement et socialement. Voilà, c'est quelque chose d'assez. C'est une phrase assez cruelle, mais profondément juste, malheureusement, et que j'ai mis du temps à comprendre. Et ça a été pour cela une révélation. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai voulu écrire ce livre sur cette période déterminante, c'est que je me sens d'une certaine façon porteur de la vie des jeunes en difficulté, ce qu'on appelle les décrochés, les déconnectés du système scolaire. Et le livre tendait à leur dire d'une certaine façon que rien n'est peut-être jamais écrit, rien n'est jamais perdu. Il faut toujours croire en son destin, car on est finalement moi qui est mis au programme de mon cours à la fac, ça, on est condamné à être libre d'une certaine façon. Et on ne peut pas forcément se réfugier derrière des déterminismes, etc., même s'il ne faut pas les nier, même s'ils sont là, même s'ils sont très forts, même s'il y a une puissance du déterminisme, même si on ne peut pas toujours, mais il faut quand même s'efforcer, en fait. J'ai voulu avec ce texte en tout cas envoyer ce message d'espoir là, et surtout dire, redire, répéter, bégayer ça, la même chose, la même phrase, c'est que l'importance de lire. Alors évidemment, peut-être que, encore une fois, j'y reviens parce que ça aussi c'est déterminant, c'est que si lire est important, aujourd'hui d'ailleurs il y a des campagnes promotionnelles très grandes sur l'utilité publique de la lecture, et c'est vrai, il faut lire, mais en même temps, on ne précise jamais ce qu'il faut lire. C'est ça qui est intéressant, c'est que lire à condition de lire des textes qui sont nourrissants. Il y a une littérature plus nourrissante qu'une autre. Alors ça, évidemment, on ne le dit pas, mais il y a des textes qui vous laissent à votre place et d'autres qui vous élèvent. Il y a des textes plus profonds que d'autres. C'est un peu comme si on vous disait il faut manger, quoi.
Oui, c'est un peu...
Il faut lire, il faut manger. Mais oui, bien sûr qu'il faut manger, mais il y a une nourriture qui ne vous nourrit pas et même qui vous fait du mal. Et il y a une lecture, en fait, qui vous fait du mal au sens où elle vous remplit de clichés, d'un prêt-à-penser. Et celle-ci, ou alors il faut la lire, mais pour savoir la critiquer, en fait, pour développer un fort jugement critique. Et c'est ça l'important, en fait. Alors, il faut lire, oui, mais pas tout lire. Il faut lire pour aiguiser son jugement critique et consolider intellectuellement. Et il y a une littérature qui est destinée à cela. C'est une littérature, évidemment, plus littéraire, vers laquelle on doit s'efforcer d'aller. Et je dis bien s'efforcer parce que ça relève de l'effort, en fait.
Mais vous êtes tombé amoureux. Pardon, j'y tiens, mais vous êtes tombé amoureux des livres.
Alors, je suis pas tombé amoureux des livres. En fait, je suis tombé amoureux
Du style
d'une
peut-être,
certaine
parce que vous aimez le
littérature.
style, pardon.
Oui, non, d'une littérature dont l'écriture est l'enjeu, en fait. D'une littérature qui, oui, qui est écrite, qui est profonde, qui est analytique. Évidemment, je suis tombé amoureux de cette littérature-là, mais pas de tous les livres, en
Oui.
fait. C'est comme vous dites encore une fois,
On
si on
tombe pas
disait
amoureux
ne
de toutes
jamais
les femmes non
manger.
plus, hein.
Non, ben non, pareil aussi, c'est pareil. Et heureusement, il faut savoir différencier, je pense, c'est ça, parce que si on tombe dans la différenciation, moi je compare toujours la nourriture et puis la lecture, enfin le manger, et puis finalement c'est la nourriture intellectuelle, c'est un peu la même chose. Quand on a envie de manger, on n'a pas juste envie de manger, on a envie de manger quelque chose, on a envie de lire quelque chose. Et je pense qu'il faut apprendre à différencier, c'est important. Alors, oui, je suis amoureux de la littérature littéraire, pas forcément des livres. D'ailleurs, vous voyez bien qu'on parle aujourd'hui de marché du livre, on ne parle pas de marché de la littérature. Il y a une sorte de grande indifférenciation qui tente à faire de tout écrit, en fait, de la littérature. Or, évidemment, ça n'est pas le cas. Alors, évidemment, publiquement et officiellement, on se plaît à dire ça, que tout est de la littérature, mais on sait bien officieusement que ça n'est pas vrai, évidemment.
Puisqu'on parle d'écriture, de littérature, dans votre livre, beaucoup de choses sont dites, mais ce qui est aussi intéressant, c'est ce qui n'est pas dit. Il y a beaucoup de pudeur dans la manière dont vous racontez, dont vous vous racontez. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est une impossibilité? Est-ce qu'il y a des, ou est-ce que voir, c'est une question esthétique pour vous, parler de choses peut-être trop de l'affect, ça ne se fait pas?
Oh non, 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 non. Alors moi, j'ai pas vraiment. Enfin, la pudeur ne se pose pas véritablement comme une grande question. Enfin, il me semble que je suis presque naturellement ou culturellement pudique. Je sais pas. Donc,
Vous dites même que vous êtes très timide.
alors je l'ai été. Je pense ne plus l'être désormais. Mais d'ailleurs, si j'ai pu écrire Confession d'un timide, c'est sans doute parce que je n'étais plus. J'avais suffisamment de distance pour pouvoir écrire sur la question, mais j'ai conservé en fait cet épisode de jeunesse et de timidité en fait une sorte de caractère très taiseux qui me fait marcher un peu à l'économie des mots et qui me fait conserver sans doute une certaine ou voire parfois une grande réserve. Et effectivement, ça se retrouve dans mon écriture qui est une écriture un peu à l'économie qui vise plutôt la justesse, une sorte de logorrhée, bavarde, etc. Et donc,
Vous parlez des,
oui.
pardon, pardon, vous parlez d'écriture à l'économie, mais vous avez aussi une maîtrise de la syntaxe. Vous êtes capable de belles phrases avec des subordonnées qui s'enchâssent les unes dans les
Oui.
autres. Vous n'êtes pas du tout dans un style sec. Vous êtes, je veux dire,
Non, c'est
vous êtes
vrai,
pas à
c'est vrai.
l'économie au sens de, par exemple, d'un
Oui,
auteur que moi
oui.
j'adore, qui est Simenon. Je ne sais pas si vous l'aimez, et peu importe. Mais
Oui,
vous
bien
êtes,
sûr, c'est bien écrit d'ailleurs.
vous êtes et qui d'ailleurs a aussi une obsession de la justesse, à mon avis. C'est pas si
Absolument.
simple d'écrire comme lui. Mais je reviens à vous.
Mais en fait, vous avez raison, c'est très, très. En fait, le plus difficile, c'est d'écrire simple et d'écrire bref, en fait, parce que ça suppose une grande sculpture de l'écriture. En fait, c'est plus facile de faire. D'ailleurs, vous voyez, les best-sellers sont des gros ouvrages volumineux et bavards, tandis que les livres vraiment qui supposent une grande tension narrative sont toujours bref.
Ça, c'est quelque chose que vous recherchez. Est-ce
Oui,
que,
bien sûr.
et pardon, ma question me revient à l'esprit. Est-ce que quand vous écrivez, vous pensez à vouloir pouvoir être lu par exemple, est-ce que vous vous dites que vous voulez que vos parents puissent vous lire? Alors, je sais que votre père est décédé et votre mère, je ne sais pas,
Oui,
mais est-ce que en tout cas,
mais
vous
dans
écrivez pour
l'esprit,
les gens,
oui.
pour le milieu d'où vous venez?
J'aimerais écrire pour. Alors, je cherche pas forcément à adapter mon vocabulaire, ma syntaxe pour les gens du milieu d'où je viens, parce que y a pas, pour moi, s'adapter à un lectorat, enfin, c'est suspect, enfin, c'est quelque chose que
Ça
je
serait
pense qu'on écrit
commercial
de la
presque pour vous.
littérature. Oui, presque, parce que évidemment, je pourrais le faire sur le métier, parce que je sais comment on fait, et je sais qu'il faudrait même. En fait, il y a des narrations plus ou moins simplistes. Qui vont chercher le lectorat plus ou moins populaire, ce qu'on appelle les romans, la littérature populaire, qui est faite avec des narrations très très simples, description d'action, dialogue, description d'action, dialogue, sont des procédés très simples. Ça, je pourrais le faire évidemment. Moi, j'ai pas envie de le faire parce que J'essaie d'écrire depuis en restant le plus proche de ma personnalité, qui est une personnalité taiseuse et réflexive. Et donc, évidemment, c'est une narration assez introspective. Et puis, moi, je me dis que moi, je ne pense pas les choses comme ça en termes d'adaptation. Je me dis que c'est au lecteur de s'adapter au texte. Moi, je l'ai fait venant d'un milieu qui ne lisait pas du tout et moi-même qui était vraiment mais un cancre, plus qu'un cancre, hein, et qui était un non-lecteur, qui n'avait pas lu de livre avant 19 ans. Si je suis parvenu à le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Tous ceux qui avaient mon niveau scolaire peuvent le faire. Mais ça suppose un peu de travail et de l'effort, évidemment. Évidemment, il y a une littérature qui exige plus d'efforts que d'autres. Alors, je n'ai pas envie de m'adapter. C'est au lecteur de s'adapter à l'écrivain. C'est au lecteur d'aller chercher l'écrivain pour moi, d'aller ouvrir le texte.
Alors,
Pour moi, c'est là ce qui nous apprend le plus, d'ailleurs, hein. Sinon, si c'est de la littérature toute faite, fabriquée, quoi. C'est comme des maisons qui ne tiennent pas, quoi.
vous dites ça, mais vous dites aussi que pour être écrivain, c'est aussi un effort. Que les gens qui disent qu'ils n'écrivent pas parce qu'ils ne trouvent pas le temps, écrire, c'est justement apprendre à trouver ce temps, c'est voler ce temps. Et personne n'a jamais le temps pour écrire, si j'ai compris ce que
Bien
vous dites.
sûr. Bien sûr, oui, parce que j'entends, et puis je fais des ateliers d'écriture, donc je les sermonne toujours, mes participants d'ateliers, parce qu'ils ont toujours, évidemment, c'est toujours difficile d'inscrire la pratique de l'écriture dans un quotidien, parce qu'on a une famille, parce qu'on a un métier, alors plus encore s'il y a plusieurs enfants, tout devient compliqué pour trouver du temps, évidemment. Mais malgré tout, lorsqu'on s'inscrit à un atelier ou lorsqu'on a le projet d'écrire un roman, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Ça ne se fait pas juste en bloquant 1 heure par jour comme ça. C'est du temps long.
C'est de l'effort.
C'est de l'effort, du temps long. C'est un gros travail. En fait, on ne se représente jamais assez le travail, le labeur, je dirais, qu'il faut pour construire un livre sur la durée. Parce qu'un livre, ce n'est pas seulement bloquer 3 mois de vacances, c'est 1 an, 2 ans, c'est aussi une gestation, de la maturation. C'est ensuite écrire vraiment proprement dit, ensuite c'est réécrire, donc c'est un gros, gros travail et cela suppose une installation, une inscription dans le temps.
J'ai l'impression, je me trompe peut-être, que vous n'aimez pas la notion de transfuge de classe. C'est parce que vous êtes resté fidèle aussi au monde dont vous venez.
Oui, alors c'est pas que je l'aime pas, mais je n'y adhère pas au sens où je me reconnais pas dans le transfuge qui suppose en fait une telle transformation sociale que ça induit l'idée de trahison. Or, moi, j'ai pas quitté les miens, en fait. J'ai toujours les mêmes amis depuis. Alors, j'en ai perdu quelques-uns, évidemment, mais j'en ai retrouvé aussi par le biais, à l'occasion justement de la publication de livres. Et puis, les personnes que je fréquente, enfin, j'ai deux types de personnes. Alors, professionnellement, évidemment, il y a tout le milieu universitaire et la littérature, mais sinon, ce que je côtoie le plus fréquemment dans ma vie quotidienne, ce sont pas des gens du tout forcément, hein, qui sont pas du tout des gens liés à la culture, rien du tout, que certains ne lisent pas du tout justement. Et bah, c'est la raison pour laquelle, enfin, je suis resté très lié à mon appartenance d'origine. Et je me sens plutôt, comme dit le sociologue Gérald Bronner, il parle de nomadisme social, je me sens comme un nomade social, c'est-à-dire je fréquente l'autre milieu, le milieu de la culture, pour à l'occasion de mes livres, pour la promotion de mes livres, et puis pour enseigner à la fac. Mais sinon, je suis toujours avec les autres gens de mon milieu. Et donc, et vous savez tout simplement pourquoi aussi, évidemment, parce que j'ai une grande passion pour le foot. Et évidemment, quand on aime le foot, enfin, vraiment une grande, grande passion,
Vous habitez dans
et
une
donc
ville de
quand on
foot en
partage.
plus.
Et j'habite à Naples, dans la ville de foot. Et donc, évidemment, quand on aime le foot, eh bien, alors, c'est un peu moins vrai en Italie, ce que je dis là. Que toutes les catégories sociales se retrouvent autour du ballon. En France, évidemment, c'est un peu plus classiste. Et donc, quand on aime le foot, évidemment, on est presque condamné à aller en milieu populaire, parce que tout le temps. Pardon. Je parle aimer le foot au sens pas seulement regarder des grands matchs, hein, regarder des matchs pas très prestigieux, quoi, des matchs de championnat de France, même de division 2, donc vous voyez des choses comme ça. Donc qui suppose un intérêt, qui suppose évidemment qu'on ne soit pas dans une forme de mondanité du football.
Par un hasard assez étonnant, le seul autre de vos livres que moi j'avais lu était pas son genre. Alors là, c'est l'histoire d'une philosophe, d'un philosophe très quartier latin incarné par le très élégant Loïc Corbery, rencontrer une coiffeuse d'Arras jouée par Émilie Duquesne, tout en énergie positive merveilleuse. Et je me suis demandé si vous étiez amusé dans ce livre à inverser votre histoire.
Et c'est très juste. Ben
Il faut
voilà,
lire les
alors
deux, en fait.
évidemment,
Est-ce que c'est il y a un jeu
évidemment,
miroir?
c'est très juste. C'est une lecture on ne peut plus juste. Alors évidemment, alors c'est un roman entièrement imaginé. Hein. Je n'ai rien vécu de tout ce qui a été écrit. Mais évidemment, on écrit toujours depuis son expérience ou depuis les expériences que j'ai pu écouter, entendre. Comme je suis écrivain, on me raconte souvent des histoires aussi. Donc évidemment, je suis assez. Comme un prêtre, moi j'accueille toutes les confessions et toutes les histoires qu'on peut me raconter. Et donc évidemment, dans ces deux personnages, le professeur de philo, évidemment, il y a un peu de moi. Et puis, il y a également dans la coiffeuse, celle qui n'a pas fait d'études, celle qui est la petite coiffeuse de province, eh ben, il y a moi aussi. C'était moi. En fait, il y a les deux moi dedans, d'une certaine façon. C'est évidemment une sorte
De
de
réinvention.
personnage, oui, de
Vous étiez peut-être
réinvention
à un
des
autre
deux
moment de votre
personnages.
vie où vous pouviez jouer les deux rôles. Parce que, en tout
Oui,
cas.
peut-être. Enfin, en tout cas, les comprendre, en fait, les comprendre. Et puis, malheureusement, en fait, j'ai écrit ce texte aussi parce que enfin, je suis assez observateur et puis j'aime regarder. Je suis assez fasciné par la façon dont les personnes peuvent se rencontrer et nouer des histoires d'amour. Et j'ai lu pour cela des études sociologiques sur la recherche du conjoint. Tout à fait intéressant qu'on peut voir, c'est chiffré en fait, il y a des statistiques là-dessus où on se rencontre le plus souvent en situation d'homogamie, c'est-à-dire dans la même sphère sociale et culturelle, et très rarement en situation d'hétérogamie, c'est-à-dire en dehors de sa sphère sociale. Et donc moi, dans mon roman, finalement, eh ben, c'est peut-être le seul endroit, l'espace romanesque, dans lequel peuvent se rencontrer un prof de philo et une coiffeuse. Dans la vraie vie, vous pouvez faire des enquêtes, vous allez voir, vous n'allez pas en trouver, ou alors exceptionnellement. Et donc, j'ai voulu évidemment rendre cette rencontre improbable possible.
J'en profite pour dire donc que votre roman s'appelle Pas son genre et que c'est un film de Lucas Bellevaux qu'on doit pouvoir trouver sur les principales.
Et avec une pensée pour Émilie Deken qui nous a quittés il n'y a pas
Évidemment.
très très longtemps.
Oui, tout à fait. Pour terminer, votre livre est placé sous, j'allais dire, le patronage, je ne sais pas si c'est un mot qui lui va, en tout cas de Sartre, Chaque homme doit inventer son chemin. En vous lisant, finalement, je me suis demandé si ce chemin, on pouvait l'inventer seul. J'ai l'impression qu'on l'invente toujours avec d'autres. Vous, c'est peut-être les gens que vous avez rencontrés, mais aussi les romanciers qui vous ont accompagné. Est-ce que vraiment chacun invente son chemin? Est-ce que c'est pas toujours une aventure collective d'inventer son chemin? Voilà, c'était ça ma question un peu compliquée, pardon.
Oui, non, non, mais vous avez raison, c'est à la fois très juste et en même temps, je pense que ça manque quelque chose, c'est-à-dire que c'est toujours une aventure collective parce qu'on n'est pas seul au monde, on fait des rencontres, on va à l'école, donc on est dans un système qui nous structure d'une certaine façon et on doit beaucoup au système, donc à l'école, aux différentes, à l'université, à tout ce qui peut nous construire, même aux bourses, dans mon cas, que j'ai pu recevoir à l'époque pour permettre de continuer mes études. Évidemment, on doit aussi aux mentors qu'on peut rencontrer, qu'on peut se trouver, même qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, ou qu'ils soient dans les livres, hein, des sortes de maîtres à penser. Donc c'est toujours une aventure collective, évidemment, mais en même temps, on peut bénéficier de tout cela et ne jamais faire son chemin. Et c'est ce qui arrive bien souvent également aussi. Et ça suppose un effort individuel très fort, très puissant. Alors évidemment, je ne veux pas dire que la fameuse phrase « quand on veut, on peut », parce que ça, c'est complètement absurde, c'est pas vrai. Quand on veut, la volonté ne suffit pas pour pouvoir. Ça, c'est une évidence. En revanche, je sais, et ça, c'est une expérience personnelle, que quand on ne veut pas, on ne peut pas. Ça, c'est aussi logique que c'est impossible. Et donc, je pense qu'il faut quand même suffisamment vouloir, non pas pour pouvoir, mais pour pouvoir mieux, en fait. pour s'améliorer, pour se mettre dans une position ascendante. Et c'est déjà beaucoup, en fait, quand on se met dans qu'on parvient à se glisser sur ces bons rails-là. Mais ça suppose encore une fois, et j'y reviens parce que en dehors des structures collectives qui nous permettent du soutien qu'on peut avoir, des rencontres qu'on peut faire, eh bien, rien n'est possible sans ce travail foncier. Et je vous le dis parce que Allô?
Oui,
Allô?
je vous entends.
Allô?
Oui.
Ouais. Je vous le dis parce qu'en tant que participant d'ateliers d'écriture, c'est assez intéressant parce que je fais des ateliers personnalisés et je donne finalement des conseils assez similaires à la plupart de mes participants d'ateliers. Mais chez certains, ça fonctionne très bien et certains même vont jusqu'à la publication, parfois dans des grandes maisons. Et puis chez d'autres, ça ne fonctionne pas. Et donc, ça ne tient pas à moi. Finalement, ça tient à la façon, ça ne tient même pas à ma pédagogie, puisque c'est toujours la même. Ça tient à la façon dont certains comprennent, amalgament, s'efforcent, travaillent plus que d'autres. Ça tient à ça aussi. Et donc, évidemment, je pense qu'il y a les deux, vous avez raison, c'est une aventure collective, mais c'est aussi une aventure
Individuel.
pleinement individuelle.
Merci beaucoup Philippe Bilvillain. Je redonne le titre de votre livre, Mauvais élève, c'est paru chez Robert Laffont. Les dieux de la technique ont été avec nous. J'espère qu'il fait un temps merveilleux à Naples. Profitez-en. Saluez l'abbé de
Oui,
ma part.
merci.
Et puis à très bientôt peut-être. Merci d'avoir
Merci, au
accepté
revoir.
cette invitation et passez un bel été. Merci à vous. Un bon été,
Merci à
pardon. Je dis
vous,
pas
au
un bel été,
revoir.
pardon.
Ah,
Merci
merci, au
beaucoup.
revoir. Merci, au revoir.
Voilà, c'était La Relève. L'émission était préparée et présentée par Christophe. La réalisation était assurée avec une patience de maître par Simon. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur le site de Radio Campus Paris. Je vous souhaite encore une fois un bon été, passez de très bonnes vacances et nous, on se retrouve normalement à la rentrée. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.